Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris, une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès. Alors j'ai l'impression qu'on a des nouvelles têtes parmi nous, peut-être des personnes qui viennent pour la première fois au Jeudi des Colibris. Ouais, Linda, et puis peut-être d'autres parmi vous. Bienvenue, ça fait plaisir. Je rappelle que donc le rendez-vous des Jeudis des Colibris, c'est tous les troisièmes jeudis du mois pendant l'année scolaire. Et donc chaque mois, un thème différent. Et donc un ou des intervenants pour venir nous parler de ce thème. Première partie de soirée, c'est enregistré. Ça donne lieu à l'émission de radio Le Chant des Colibris. Passe sur plusieurs radios du Gard, Radio 16, Radio Grille Ouverte, Radio Fuse et autres. Radio Intervalle aussi, etc. Quand même, c'est mieux de venir en vrai que de l'écouter à la radio, parce que en vrai, on a la première partie de soirée donc avec l'entretien, et on a aussi la deuxième partie de soirée où là, on peut pratiquer, découvrir un temps dans l'action. On aime bien amener quand même quelque chose d'un petit peu actif et participatif. Donc bienvenue à vous. Là, ça, le thème de ce soir, c'est la géobiologie. En ce qui concerne les colibris, donc juste dire ça, c'est les colibris qui organisent cet événement en partenariat avec la cantine solidaire de Rochebelle qui nous prépare donc la collation. Si vous avez des questions sur les colibris, sur comment fonctionnent les colibris, je vous propose de voir ça en troisième partie de soirée. On prendra un petit temps d'échange à la fin de soirée. Vous pourrez nous partager comment vous avez vécu cette soirée, ce que vous en retenez. Et c'est à ce moment-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais là, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec Éric Dupuis, donc notre intervenant.
Bonsoir.
Salut Éric, bonsoir. Donc Éric, toi tu es géobiologue et sourcier.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça. Comme quoi, hein, on peut être sourcier sans être un vieux bonhomme bossu avec,
avec une canne, baguette en bois
et un chapeau pointu.
Par exemple.
Et merci déjà de venir nous parler un petit peu plus de ce monde de l'invisible, parce que là, c'est ça, c'est ce avec quoi tu travailles.
Oui, tout à fait. Mmh.
Ça intrigue parce qu'il y a du monde hein, ce soir dans la salle, donc c'est que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre nous, de plus en plus peut-être.
De plus en plus, oui. De plus en plus de gens sont sensibles non seulement à ce qu'ils mangent, mais aussi au lieu où ils vivent. Donc effectivement, on s'intéresse de plus en plus à avoir un habitat qui est le plus ressourçant possible, en tout cas qui ne nous fatigue pas et qui nous permet même, si c'est possible, de nous ressourcer un peu après notre journée de travail. Voilà.
Oui. En fait, les lieux ont toujours eu un impact sur nous, mais sauf qu'aujourd'hui, on commence à en prendre de plus en plus conscience, c'est ça ?
Oui, on avait un peu oublié la sagesse des anciens qui savaient faire les choses et pour vivre dans de bonnes conditions avec nos villes modernes, mais on s'aperçoit qu'on n'y échappe pas et qu'il faut aussi s'occuper de nos bâtiments modernes et des lieux où on vit et de l'endroit où on construit notre maison, du terrain sur lequel on passe du temps le week-end, voilà.
Mm-mm. Alors, peut-être d'abord que tu nous présentes la géobiologie. Qu'est-ce que ça comprend ? Qu'est-ce que c'est la géobiologie ? C'est un joli terme, mais qu'est-ce qu'il recouvre ?
Alors, à l'origine vient l'art du sourcier, qui existe depuis des millénaires. Donc, on en retrouve des traces dans l'Égypte ancienne, on en trouve des traces en Grèce. Les Romains faisaient déjà appel à des sourciers quand ils installaient leur ville. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, en fait, des scientifiques se sont un peu penchés sur la question. On a changé de terminologie, puisque le sourcier, on a rebaptisé son savoir en radiesthésie, ça faisait plus savant.
Et qu'est-ce que ça veut dire, radiesthésie, en fait? C'est le sourcier, c'est ça, la
c'est
radiesthésie?
C'est le travail du sourcier, travail en du fait, sourcier. Le ressenti du sourcier sur le terrain. Et après, au début du XXe siècle, il y a des chercheurs qui ont continué à se poser des questions et qui ont travaillé sur les champs géomagnétiques. Et là, on a un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur la question et qui ont posé les bases de la géobiologie, qui a étendu un petit peu, évidemment, son domaine d'intervention par rapport aux sourciers. Et donc, chaque personne a essayé de mettre, de découvrir des choses petit à petit et élément par élément. Donc, le métier de géobiologue s'est instauré et s'est structuré.
Donc, ça comprend à la fois l'étude et la connaissance des champs électromagnétiques.
Oui.
De l'eau, des réseaux souterrains aquatiques, d'eau, quoi.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, peut-être d'autres choses encore.
Et puis,
qu'on
d'autres
va
choses,
découvrir ouais. à mesure de la soirée, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Ok. Et dis-nous, toi, Eric, comment tu t'es venu à t'intéresser à tout ça? Comment dans ton histoire ça intervient
En fait, une certaine sensibilité aux choses déjà. Et puis après, je me suis mis à travailler effectivement sur les terrains que je connaissais. Et puis jusqu'à après pour valider l'ensemble par un diplôme dans une école française.
Tu veux dire qu'au début tu t'es mis à bidouiller un peu tout seul dans ton coin?
Oh bah oui.
Pour voir.
Parti avec tester. Mon pendule, voilà.
En lisant des livres, tu t'es intéressé à ça.
Voilà,
puis tu t'es
c'est
dit,
ça.
Allez, je vais essayer.
Voilà, et puis tester, et puis voir à des endroits où on n'était pas bien, essayer de comprendre pourquoi on n'était pas bien, et puis voilà.
Ok.
Et voilà, et de fil en aiguille.
T'as fait
et
une
arrivé
formation.
La vocation, voilà, j'ai fait une formation pour compléter tout ça, consolider tout ça et avoir un diplôme représentatif.
D'accord. Comment ça se passe, la formation de géobiologue? Ça dure longtemps?
Ça dépend des écoles. J'ai suivi une école qui est basée en Bretagne, parce que c'est un haut lieu des choses sensibles.
Énergétique,
et,
oui.
Voilà, des réseaux sacrés. Mmh. Et donc, j'ai eu 3 semaines de formation, plus travaux à la maison, voilà.
D'accord, ok. Donc, c'est pas très long.
C'est pas très long, non.
Ouais.
Non, d'accord. Non, mais en fait, c'est... Travailler la théorie, après on repart chez soi et on fait beaucoup de pratiques.
Et c'est là que ça commence.
On recommence à faire de la théorie, puisqu'en fait on morcelle cette formation en plusieurs périodes, ce qui
d'accord.
permet de tester entre les deux, de consolider les choses. Voilà.
Ok, super. Très bien. Eh bien, écoute, peut-être nous présenter alors ce monde de l'électromagnétisme et des champs, champs telluriques, tout ça.
Voilà,
Raconte-nous un peu comment c'est fait.
Donc en fait, nous, hommes, nous sommes constitués à 70% d'eau, donc on est très sensible à l'eau et aux champs magnétiques. Après, on doit travailler la chose pour le sentir vraiment bien. Mais donc, on efface en fait, quand on étudie les choses, à des perturbations qui sont naturelles ou des perturbations qui sont plus liées après à notre technologie actuelle. Donc dans les perturbations naturelles, notre croûte terrestre est sillonnée par des cours d'eau, il y a des nappes d'eau, plus ou moins vivantes, plus ou moins circulantes. L'inconvénient des cours d'eau, c'est que partout où l'eau passe, en fait, elle a tendance à drainer la bonne énergie du terrain, à l'emmener. Donc c'est pour ça qu'on fait attention au passage des cours d'eau sous les habitations, sous les terrains. Là où il y a nappe d'eau, ça dépend en fait de la nappe. Si c'est une nappe complètement stagnante, là on a le risque que cette nappe d'eau soit plus ou moins polluée et se dégrade à travers le temps. Donc il faut isoler ce genre de choses. L'important aussi de l'eau, c'est de savoir où elle passe, par où elle passe. Parce que j'ai eu des cas par exemple où on a des cours d'eau qui passaient par des cimetières. Et donc, quand un cours d'eau passe par un cimetière et après passe sous votre habitation, il y a des moments où, en fonction du débit et de l'eau, vous avez peut-être des problèmes qui vont arriver chez vous que vous ne connaissez pas le reste du temps. Ça arrive. Il arrive, par exemple, par de fortes pluies que...
Quel genre
y a
de problème
des... On ne se sent pas bien chez soi, ouais. D'un seul coup. Voilà, il arrive que des cours d'eau soient vraiment très, très minimes et donc on n'a absolument aucun impact sur notre vie. Mmh. Et puis, il y a des moments où des fortes pluies, comme on a vu ces derniers temps, finissent par drainer des choses qui sont assez négatives et les emmener jusqu'à chez nous si on a effectivement un cours d'eau qui passe chez nous. Et donc, d'un seul coup, on se sent plus mal. Et donc, c'est bien d'essayer de neutraliser ces côtés négatifs.
Ça me fait penser à un truc pendant que tu parles. C'est amusant quand même que la mer, là où se retrouve au final tout ça, soit salée. Et que le sel soit un élément
bien de nettoyant. Ouais,
c'est quand même magique, c'est bien fait. Hein.
La
nature terre, elle est belle. Hein.
Ouais. Donc en dehors de ces cours d'eau, on va trouver aussi des failles. Et à travers ces failles vont remonter des rayonnements ou des gaz nocifs. Donc les failles aussi sont un des éléments très importants à chercher quand on étudie un emplacement.
Alors je vois des visages qui froncent les sourcils. Peut-être les failles, c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que c'est qu'une faille ?
En fait, ce sont dans le sol des fractures entre les différentes couches de sédiments qui vont provoquer une cassure et une possibilité de remonter donc de ces gaz nocifs et des choses qui sont à l'intérieur du sol. Donc, en fonction de la vie géologique du terrain sur lequel vous êtes, vous avez des failles qui se sont créées à travers le temps, qui ne sont pas forcément visibles en surface, mais qui sont bien présentes à l'intérieur et qu'il faut bien déterminer parce que
effectivement, énergétiquement,
elles ont un impact très négatif.
Voilà. Qu'il y ait ou pas des remontées de gaz, parce que tu parles de remontées de gaz.
Qu'il y ait ou non pas des remontées, mais ça peut être des rayonnements gamma, ça peut être.
Voilà, d'accord, ok.
On retrouve des choses comme ça.
D'accord. Donc on va faire attention effectivement à la présence de l'eau, on va faire attention donc à ces failles telluriques. À quoi il faut faire attention encore?
Et bien nous avons ces fameux réseaux géomagnétiques, c'est-à-dire que la croûte terrestre en surface est complètement maillée par des systèmes géomagnétiques. Ce sont des espèces de gros maillages avec généralement des cases carrées qui ont des tailles variables et des impacts variables sur notre vie. On a une première catégorie qu'on appelle les réseaux cardinaux. Donc ces réseaux cardinaux, on les appelle comme ça parce qu'en fait, ils sont orientés nord, sud, est, ouest. Donc tous ces réseaux ont été étudiés par des gens qui ont laissé leur nom sur ces fameux réseaux. Donc on va trouver du réseau Hartmann, du réseau Romani, Palme, Perret. Tout ça, c'est des gens qui ont travaillé sur la question. Parmi tous ceux-là, il y en a qui sont pas trop nocifs et d'autres qui le sont par contre beaucoup plus et qu'on doit vraiment isoler et déterminer. Par exemple, donc, dans les réseaux cardinaux, on a ce qu'on appelle le réseau Hartmann, qui a des cases de 2 mètres à 2 mètres 50 de large. L'épaisseur de ce qu'on appelle les murs, c'est-à-dire les traverses d'une vingtaine de centimètres. Et mine de rien, ce réseau, en fait, est très nocif. Ça travaille un peu sur le psychique des personnes. Et en plus, ce réseau a la particularité d'être très sensible à la présence d'eau, la présence d'électricité, ou aussi la présence de magie noire, qu'on retrouve à certains endroits, qui ont tendance à renforcer en fait l'aspect négatif de ce réseau Hartmann. Après, on trouve des réseaux semi-cardinaux qui
donc,
sont.
Juste pour résumer, excuse-moi, le réseau Hartmann, de toute façon, c'est pas bon de se trouver sur son passage.
On va voir un peu plus loin. En fait, un réseau tout seul peut être nocif. L'important, c'est en fait ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire les points d'intersection des verticales et des horizontales. Et on va voir un peu plus loin aussi que, en fait, la superposition de nœuds de réseaux différents peut avoir un effet cumulatif, et voire amplificateur, très mauvais pour la santé sur les gens qui sont en présence de ces réseaux. Donc on a des réseaux après, donc je disais, semi-cardinaux, c'est-à-dire qui sont à 45 degrés par rapport aux autres. Ils sont d'orientation nord-ouest, sud-est, et équivalent donc nord-est, sud-ouest. Dans ces réseaux, ben, on va retrouver encore un certain nombre de réseaux. On va retrouver le Curie, le Weissmann, le Grand Diagonal. Celui qu'on retrouve le plus dangereux, c'est le Curie, parce qu'il a un maillage qui n'est pas trop important, de 4 à 8 mètres, et surtout une épaisseur de 40 cm de ses membrures. Et donc lui, il a un impact sur les personnes, sur nos pauvres petits corps, sur le côté osseux, le côté articulaire. Et il faut savoir aussi que ces réseaux, certains sont sensibles à certaines choses et peuvent se déformer un peu. C'est-à-dire qu'un réseau n'est pas complètement rectiligne. Par exemple, dans le cas du Curie, si vous avez une grosse masse métallique, par exemple, vous êtes dans un atelier, il y a une grosse machine, la paroi du Curie va se déporter un peu pour se rapprocher de la grosse masse métallique. Donc, quand on trace des réseaux comme ça, on ne part pas en disant, voilà, ça part de là, on jette un trait et puis c'est bon. Non, et des fois, il y a aussi des déformations. Donc, on est obligé de porter une grande attention au dessin de tous ces réseaux quand on trace.
Et donc là, l'idée, ça va être de repérer ces réseaux pour mettre nos lieux de séjour les plus longs, donc le lit, le canapé, ces endroits-là, entre les mailles de ces réseaux, c'est ça ?
Tout à fait, voilà. Donc en fait... tous ces réseaux donc, ont des impacts négatifs. L'accumulation de certains nœuds de réseaux différents a un impact d'autant plus négatif. Par exemple, si on a un nœud d'un réseau Curie plus un nœud d'un réseau Hartmann, on a ce qu'on appelle un point étoile. Mais si ce point étoile correspond à un passage d'eau, à ce moment-là, on appelle ça carrément un point géopathogène. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Géopathogène.
Ça veut vraiment dire que c'est un endroit où, si on y séjourne longtemps, on met son canapé ou on met son lit, on a des grandes chances de tomber malade ou en tout cas d'avoir une santé un petit peu affaiblie. Et c'est à un tel point qu'un croisement, par exemple, de failles, on appelle ça un point cancer. Et c'est pas complètement de l'imagination. Voilà.
On peut imaginer que dans un futur un peu plus conscient et un peu plus respectueux de l'humain et tout ça, on travaille avec les géobiologues sur la conception des bâtiments.
Mais en fait, un architecte devrait travailler à la base avec un géobiologue pour déterminer le maillage qu'il y a sur le terrain, pour effectivement positionner la maison au bon endroit et positionner les chambres et les endroits où on passe le plus de temps, évidemment, au bon endroit. Mmh.
River, I will come to your river. forever. Come to your river,
wash my soul.
I will come to your river,
wash my soul.
I will come to your river,
wash my soul again.
Écoutez IBI dans le champ des colibris où nous découvrons la géobiologie, cette étude de la vie de la Terre et de ses manifestations invisibles mais sensibles. Éric Dupuis, géobiologue, répond à nos questions. À quoi d'autre il faut faire attention? Alors ça fait déjà beaucoup de choses.
On en trouve des choses.
Ouais.
On va trouver aussi des cheminées cosmotelluriques. Ah, les cheminées cosmotelluriques, on a trouvé ça dans les campagnes, on disait le rond des sorcières, c'est-à-dire un endroit où la végétation n'a pas la même couleur, n'a pas la même vitalité qu'à côté. En fait, c'est des tubes d'énergie ciel-terre qui en fait ont soit un côté positif, un aspect positif, soit un rayonnement négatif. Soit elles sont à haute vibration, donc haute vitalité, dans ce cas-là, elles posent pas de problème. Soit elles sont à basse vibration, basse vitalité, et effectivement, là, ça peut poser des problèmes. Et en plus, elles ont un impact important, parce qu'en fait, ces tubes d'énergie, ces tubes de respiration de la Terre, qui ont une respiration alternative, ont des bras, la plupart du temps, et ça peut aller jusqu'à 8 mètres de diamètre. Donc, c'est pas négligeable comme impact de nocivité ou de bonification.
Alors on peut les repérer dans la nature, du coup là on va les voir parce que la végétation va peut-être nous permettre de le voir, mais est-ce que ça peut se passer aussi dans une maison ça?
Ça peut tout à fait se passer dans un bâtiment, on peut de toute façon l'avoir en dessous d'un bâtiment, et effectivement le rôle d'un géobiologue ça va être
de déterminer ça
pour voir effectivement. Et effectivement le travail, ça sera de déplacer ces cheminées pour qu'elles n'aient plus d'impact sur les parties où on reste.
Parce que ça, on peut les déplacer, contrairement aux réseaux.
Les réseaux, on peut pas les déplacer. Mm-hmm. On peut essayer d'atténuer leur impact, mais on peut pas les déplacer. Par contre, les cheminées cosmotelluriques, ça, on peut les déplacer.
Okay.
On va trouver aussi encore une autre race.
Encore ?
Les vortex.
Ah d'accord, une autre race, d'accord.
Et donc les vortex, en fait, c'est vous avez deux points distants, ça peut être de 50 à 1500 mètres. C'est des endroits, des lieux de bonne énergie qu'on retrouve sur certains réseaux, des réseaux sacrés, des endroits qui sont vraiment bons. Et en fait, ces vortex, c'est deux points qui sont entourés d'une spirale d'énergie. Et c'est chacun a une spirale d'énergie et les deux spirales d'énergie sont reliées entre elles. Et donc c'est des axes de très bonne énergie. En Bretagne, j'ai pu en étudier certains, c'est sympathique. On s'y sent bien.
Donc les vortex, ça c'est plutôt chouette.
Là,
on parle de quelque chose.
On parle de quelque chose de positif.
Voilà. On a vu aussi que les cheminées cosmotelluriques, ça pouvait aussi être élever les vibrations.
Ça peut aussi.
Après, faut voir comment on se sent près de cette cheminée. Ok. D'accord. Et
Après, on va retourner dans le négatif.
Ah bon, voilà, hein, déjà.
Après, dans le négatif, on a les mémoires des lieux.
Tu me diras, les mémoires, il y en a des positives aussi.
Oui, bien sûr.
Hein
ouais.
Celle-là, on ne parle pas bizarre.
Celle-là, j'ai moins de travail dessus.
Ouais, c'est ça. Ok, donc les mémoires des lieux. Alors,
les mémoires des lieux, des constructions, des objets. En fait, au fur et à mesure du temps, en fait, un endroit où nous vivons, ou des objets que nous possédons, ou que différentes personnes possèdent, s'imprègnent en fait, de nos états d'âme, de nos angoisses, de nos peurs, de nos tristesses. Et ça peut se faire sur des vieux objets ou des vieilles bâtisses, sur des générations et des générations. Sauf que les bâtiments, ils savent pas se nettoyer et ils gardent tout. Si bien que si vous êtes dans un bâtiment, effectivement, où vous avez eu des grosses colères, des gros malheurs ou des choses comme ça, vous allez ressentir ces choses-là tant que ça n'aura pas été nettoyé, en fait.
Et donc là-dessus aussi, en tant que géobiologue, tu peux intervenir.
Et voilà. Là-dessus aussi, on intervient. En fait, on va nettoyer en fait ces mémoires pour repartir à zéro, quoi. On fait un R à Z et évidemment après, on repart sur de meilleures bases.
Ok. Et il suffit de le faire une fois ou il y a besoin de le faire régulièrement, le nettoyage ?
Alors, il suffit pour un certain nombre de données de le faire une seule fois. Pour tout ce qui est existant, on le fait une seule fois. Par contre, après, on ne garantit pas que d'autres personnes ayant touché l'objet ou ayant vécu dans les bâtiments aient de nouveau des angoisses,
qui vont impacter le lieu.
Qui vont de toute façon se réenregistrer dans le lieu.
D'accord.
C'est difficile d'avoir un système auto-nettoyant.
Donc quelque part, après, ça c'est bien aussi de temps en temps de refaire un nettoyage.
Tout à fait.
Ok. Il y a aussi tout l'aspect... Il y avait peut-être encore autre chose
Dans les matériaux.
Ouais, matériaux. Attention aux matériaux.
Oui, on peut avoir des matériaux toxiques qui sont enfouis dans le sol. Donc là, effectivement, le travail du géobiologue, ça va être essayer de nettoyer. Mais aussi, on peut avoir aussi, plus ou moins forcé, de manière plus ou moins officielle, le sous-sol sur lequel vous avez bâti votre maison a pu servir de sépulture ou de champ de bataille. Donc on retrouve, ça arrive assez fréquemment, des choses. Il y a un exemple très parlant dans notre département, c'est Aigues-Mortes.
Puisqu'à
Aigues-Mortes, pendant la grande période des épidémies, en fait, il y avait tellement de morts qu'on considérait qu'il valait mieux pas qu'ils sortent des maisons parce qu'on a risqué de contaminer les voisins. Donc les gens avaient l'ordre d'enterrer leurs morts dans leur sous-sol. Le problème, c'est que c'est resté comme ça. Et quand vous allez travailler sur un bâtiment, sur un logement dans Aigues-Mortes, et ben vous retrouvez les traces de ces choses-là. Et tout à l'heure, on parlait de ce que drainent les cours d'eau. Ben, tous les cours d'eau qui se baladent sous Aigues-Mortes drainent des choses.
C'est peut-être pas
pour
rien qu'elle s'appelle comme ça, cette ville, du coup.
C'est pas facile. ça demande beaucoup de travail.
Ok, alors après il y a tout l'aspect donc des perturbations qui sont plus d'ordre technologique.
Oui.
Parce que aujourd'hui, ouais, il y a de quoi faire entre la Wi-Fi, les antennes, téléphones portables et autres.
Eh oui, c'est super le modernisme.
Ouais, c'est super, mais du coup ça a aussi des conséquences parfois pas si super que ça.
Oui.
Alors comment on fait face à ça ?
Donc on va retrouver des champs électriques. Alors les champs électriques, dès que vous avez un appareil qui est branché, vous vous retrouvez avec un champ électrique. Alors, il faut savoir que le champ électrique, il est émis, pour les bricoleurs, par la phase. C'est la phase de notre réseau alternatif 220 qui émet donc ce champ électrique. Donc, une précaution à prendre si vous êtes sensible à ces champs électriques, c'est de vérifier. Il y a des petits appareils pas chers qui existent. À moins de faire passer un géobiologue chez vous. Mais sinon, il y a des petits appareils pas chers qui existent, de testeurs de phase, et il faut bien vérifier que vos appareils électriques, la phase est coupée par l'interrupteur. Ça évite que, même quand l'appareil est arrêté, vous ayez un champ électrique qui se propage dans tout l'appareil en permanence et qui vous pollue. Par exemple, votre lampe de chevet.
Ça aussi, on peut imaginer que dans les temps à venir, avec un peu plus de conscience, les électriciens soient un peu obligés de vérifier ce genre de choses.
Normalement, c'est obligatoire.
Ouais.
Normalement, c'est normé. Mais évidemment, tout le monde n'a pas une installation dernière norme. Donc, c'est des choses qui sont à vérifier.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors, au niveau technologie
On a aussi des champs magnétiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un appareil qui est en fonctionnement, là, il y a un champ magnétique, en plus, qui est émis, qui est d'autant plus fort que l'appareil consomme beaucoup d'électricité. Donc, ça, c'est dangereux. Juste une petite chose sur laquelle je vais revenir sur les champs électriques, pour faire attention aux maisons qui ont des structures en bois. En fait, le champ électrique est conduit très bien par les structures en bois. Le problème, c'est que pour résoudre le problème sur les appareils électriques, déjà, le fait d'avoir une bonne prise de terre, c'est énorme, ça réduit énormément les choses. Mais par contre, sur une maison qui a une structure en bois, si elle est polluée par le passage de fils électriques, la structure va se charger, mais une structure en bois, ça peut pas se mettre à la masse. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention aux circuits électriques qui circulent à côté d'une structure bois pour éviter que ça rentre dans le bois, que ça l'imprègne. Donc, soit éloigner les câbles, soit éloigner les appareils électriques, ou soit avoir des systèmes de blindage pour éviter que la structure en bois soit touchée. On parlait tout à l'heure des hautes fréquences et des hyperfréquences. Donc, attention aussi dans les maisons, les réseaux Wi-Fi. Tout le monde n'est pas sensible, mais c'est vrai qu'un réseau Wi-Fi, ça a un impact. D'avoir une box, d'avoir des téléphones portables, des téléphones sans fil numérique. Comment on appelle ça, les babyphones, c'est une liaison numérique et même ça, ça émet des ondes.
Toutes les liaisons sans fil, en fait.
Voilà, toutes les liaisons sans fil.
Et donc, qu'est-ce qui est préconisé ? Éteindre les appareils la nuit, j'imagine.
Éteindre les appareils la nuit et surtout essayer de les avoir le plus loin possible de soi. Okay.
Après, l'efficacité de ces choses qu'on peut nous vendre, des housses ou des choses, ça fonctionne quand même ?
Alors, ça fonctionne un peu. Mais surtout dans le cas, par exemple, par contre, de tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les antennes, toutes les antennes relais, la TNT, les radios numériques, les relais Wi-Fi haute puissance, tout ça, ça émet des champs qui sont très élevés. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui existent, on peut passer par des rideaux métalliques, des peintures métalliques sur les maisons. Tout ça, ça coûte, c'est vrai, relativement cher et c'est d'une efficacité, malheureusement, qui n'est pas optimale. Donc c'est vrai que si on peut s'éloigner d'une antenne relais, c'est fantastique.
Mmh, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton intervention, toi, en tant que géobiologue ? Donc, tu vas venir diagnostiquer, on va dire, un lieu, une maison, sur tous ces points.
Ouais. L'intervention, en fait, la démarche normale, le mieux, c'est d'avoir un plan de la maison déjà pour commencer. Parce que je commence toujours à travailler sur le plan de la maison, essayer déjà de me faire une idée, de déterminer les réseaux qui peuvent y passer. Parce qu'on peut toujours tester un peu à distance, ça se dit pas, mais on teste à distance.
Avec donc là ton pendule, c'est ça?
Eh oui, là on sort le pendule et puis on teste et on envoie la configuration qu'il y a sur votre terrain, dans votre maison. Et après on se déplace. Donc on va sur place et on contrôle, on vérifie que ce qu'on a trouvé, ça correspond bien. Et donc là après, soit c'est des choses comme on a vu tout à l'heure, donc des mémoires dans les murs, des choses comme ça. Donc il y a des choses qu'on peut nettoyer facilement. Mmh. Après, comme on disait, les maillages, les réseaux géomagnétiques, on ne peut pas forcément les déplacer. Donc après, ça sera de conseil de déplacer certains endroits où vous passez le plus de temps. Ça peut être votre lit, ça peut être votre canapé, organiser votre salon différemment pour que, en fait, ces réseaux aient le moins d'impact possible sur vous. Mmh. Après, on essaye de neutraliser aussi les effets des passages des cours d'eau ou de failles. Voilà, en gros. Et si, effectivement, ce traitement, j'ai redécouvert une technique. Moi, je dis toujours redécouvert parce qu'en fait, tout existait. Le savoir, il y était avant. C'est simplement qu'on a oublié plein de choses. Et donc, dans notre monde, tout est fait d'ondes vibratoires. Et donc, il paraît naturel de traiter tous les problèmes, d'essayer de traiter tous ces problèmes par des ondes vibratoires. Et donc, la technique que j'ai redécouverte, c'est de travailler avec le son. Le son le plus facile à trouver, c'est sa voix. Et donc, je travaille beaucoup, en fait, avec la voix pour neutraliser et nettoyer les choses.
Tu peux nous faire entendre comment ça fait?
Donc, on peut travailler. Donc, on va monter dans les aigus pour faire du nettoyage et descendre plus dans les graves pour remplir d'énergie positive. Mais comment on dit ça? Moi, j'ai une voix de basse, donc j'ai tendance. On va travailler pas mal dans les graves. Et mais après, on peut monter.
Ça va être plus pour charger en énergie.
Ça va être plus pour charger en énergie positive les choses qu'on a nettoyées. Et après, on peut monter dans les aigus, mais la voix se travaille. Dans ce cas-là, il faut les chauffer. Mais sinon, on peut monter. Et ça va plutôt nettoyer.
Okay.
Mais en fait, je prends mon pendule et je teste la chose nocive que j'ai à nettoyer. Je teste la fréquence qu'il faut. J'émets la fréquence qu'il faut.
Donc tu vas moduler ta voix, faire des modulations, et le pendule va te dire quand c'est bon.
Quand c'est bon.
Et là, quand c'est bon, tu restes là-dessus.
Je reste là-dessus jusqu'à ce que le pendule me dise qu'il n'y a plus rien.
Ok, Très bien, merci pour cette explication. Comme quoi, finalement, on a tous cet organe de la voix. Et, donc on...
et ça se travaille.
Ouais.
Et en fait, à force de travailler, on s'aperçoit qu'on peut découvrir des octaves au-dessus qu'on ne pensait pas accessibles.
C'était Émilie Loiseau avec L'Au-delà. Nous parlons géobiologie avec Éric Dupuis dans le champ des colibris.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais quand tu interviens comme ça sur un lieu?
Et ou... Sinon, oui, généralement, à la fin, sur un lieu, pour pérenniser les choses et stabiliser les choses, je dépose soit ce que j'appellerais des formes, soit de la végétation, qui sont des plantes. Ça m'est arrivé de travailler, par exemple, avec des cactus, comme ça m'est arrivé de travailler simplement soit avec des dessins, soit avec... En fait, suivant les lieux, il y a des formes qui parlent plus que d'autres. Et par exemple, quand j'ai travaillé avec Morte, j'ai travaillé avec des croix camarguaises. Et les lieux comprennent ces choses-là et on arrive à stabiliser les choses aussi en laissant ne serait-ce qu'un dessin, pas forcément un objet qui a cette forme-là, mais ne serait-ce que le dessin, la forme de ça.
Oui, donc les formes ont vraiment un rayonnement énergétique
puissant. Tout à fait.
Puissant.
Tout à fait. Mmh. Il s'agit de trouver les bonnes et de les placer au bon endroit.
D'accord. Toujours le pendule qui t'indique.
Toujours le pendule.
Ok. Ouais, ouais. Donc si tu lui demandes tout, hein. C'est ton, c'est ton petit.
Il ne faut pas que je l'oublie.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir pour le choix de son pendule, pour ceux qui veulent
Si vous voulez acheter un pendule, vous allez dans une boutique où il y a beaucoup de choix et vous allez vers celui qui vous appelle. Il n'y a pas vraiment de critères objectifs sur la chose, c'est vraiment au ressenti. Il y en a que vous les prenez en main, vous les essayez. Et puis vous sentez celui avec lequel vous vous sentirez le mieux. Et après, vous lui donnez sa loi de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un pendule en main, que vous avez attrapé, eh ben, vous lui expliquez ce que vous voulez, comment vous voulez fonctionner avec lui. Et donc, vous lui dites, par exemple, quand je tourne dans le sens horaire, ça veut, tu vas me répondre que c'est oui. Et quand ça tourne dans l'autre sens, la réponse sera non.
Voilà. On a établi le code.
On établit le code. Et une fois que le code est établi, c'est fait pour...
C'est tout simplement
tout
ça, deux sens giratoires, ça suffit, un oui, un non.
Ouais. Généralement, quand il s'est indécis,
il fait des va-et-vient. D'accord, ok. Très bien. Et tu me disais quand même, favoriser le métal.
Oui, plutôt le métal, oui, bien sûr. Okay. Qu'il soit réceptif au
champ. Non, moins.
Moi, je le sens moins, mais ouais, après, peut-être que quelqu'un le sentira.
Ok. Très bien, merci ouais, pour ces petits conseils. Y a-t-il autre chose à savoir sur comment on procède pour nettoyer un lieu? Il n'y a pas que les lieux non plus. Hein. Travailler, toi et ta compagne, aussi sur le nettoyage énergétique des personnes.
Tout à fait. Mm-hmm. Après, s'être occupé de la partie habitat, après, il faut s'occuper aussi des gens qui sont dedans,
ouais.
Qui y vivent.
Ouais. Alors, comment ça se passe là, à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Comment ça se passe?
En fait... Comme le dirait le Dalai Lama, il dit « Aucun sombre avenir ne préside à notre avenir, c'est nous qui traçons notre chemin. » Donc en fait, on est maître de notre destinée. Mais pour qu'on soit vraiment maître de notre destinée, en fait, il faut commencer par aller étudier son sac à dos. Et en fait, notre sac à dos, c'est tout ce qu'on a accumulé d'émotions dans cette vie, mais aussi tout ce que nos ancêtres nous ont légué, qu'ils n'ont pas réglé. Et donc, voilà, ça forme notre sac à dos. Et si on veut poursuivre dans la vie de manière positive, ben, l'important, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans son sac à dos et puis d'essayer de l'alléger de plus en plus.
Et donc, là, c'est là que vous intervenez.
Et c'est là qu'on intervient.
Dans le nettoyage du sac à dos, dans le tri du sac à dos.
Dans le tri du sac à dos et son nettoyage, tout à fait.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est vrai que ce sac à dos, il déforme un petit peu la manière dont on voit la réalité, dont on voit notre vie, dont on voit les autres personnes. Et on peut avoir, par exemple, des réactions qu'on trouvera irrationnelles par rapport à, dans une certaine situation, et on se demande d'où ça vient. Et en fait, c'est simplement que dans notre sac à dos, venant d'au-dessus de nos ancêtres, en fait, on a une problématique et que cette problématique, ben, eux, ils ne l'ont pas réglée et c'est à nous de la régler si on veut s'en débarrasser. Mais ça, on n'en a pas connaissance au début. Il faut qu'on nous aide, en fait, à mettre le doigt dessus, en fait. Mm. C'est vrai que dans certains arbres généalogiques, on voit des répétitions. Ouais. Répétitions d'abandon d'enfants ou de morts violentes. Alors, ça saute des générations de temps en temps. Mais malheureusement, tant que cette lignée de problèmes n'est pas neutralisée, tant qu'on n'a pas travaillé sur la question, ça va continuer comme ça pour les générations futures. Donc quand on nettoie son sac à dos, on fait du bien aux générations futures,
ouais.
À nos enfants et leurs petits-enfants.
C'est un beau cadeau à leur faire.
C'est le meilleur cadeau à leur faire.
Transmettre soit un mini sac à dos, soit même aucun.
Le plus petit possible.
Le plus petit, ouais.
Après, on n'est pas parfait, mais bon, on essaye.
Ouais. Alors, du coup, comment ça va se passer, un nettoyage énergétique sur les personnes?
Un nettoyage énergétique sur les personnes?
Pareil au pendule. Ok.
Pareil au pendule. En fait...
Donc là, sur ce coup-là, vous êtes deux. Hein. Vous bossez vraiment
en binôme. Sur ce coup-là, on travaille à deux, ouais.
Voilà. Donc là, tu t'appuies beaucoup sur ta compagne qui est médium.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et qui, elle, va faire une première partie de séance avec la personne pour voir justement quelles sont les charges du sac à dos.
Et voilà. Okay. Et en fait, quand on commence à travailler sur le sac à dos, l'important, c'est aussi de respecter la personne, puisqu'en fait, dans son sac à dos, à un moment donné, on est prêt à travailler sur une certaine chose et pas d'autre. Donc l'important, c'est que le médium sache sur quoi on est prêt à travailler et ce sur quoi il ne faut pas toucher, en fait, ce qu'il faut laisser. Donc ça, c'est important, c'est de respecter en fait le rythme de notre organisme. Il ne faut pas aller trop vite et il ne faut pas brusquer les choses. Donc effectivement, donc la première étape, c'est qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qu'on est prêt à nettoyer. Et une fois qu'on a déterminé ça, on essaye de comprendre pourquoi on a ça. Et donc en fait, si c'est dans la vie actuelle, il faut comprendre pourquoi on s'est chargé de telle émotion, telle angoisse au cours de notre vie, et comprendre en fait notre mécanisme de fonctionnement pour que, une fois qu'on l'a nettoyé, on réitère pas, ce qui serait dommage. Donc l'important, donc, c'est de trouver des problèmes.
La compréhension est importante.
L'important, c'est aussi de comprendre pourquoi pour pas recommencer. D'accord. Et si ça vient de la lignée, c'est bien de comprendre en fait la problématique, d'où ça vient, pour évidemment ne pas reproduire après.
Ok, très bien.
Et une fois que cette explication est faite, on fait un travail de la même manière par le son.
Par le son,
Nettoyage énergétique par le son. On recherche avec le pendule les fréquences qui correspondent en fait aux parties à nettoyer.
Ok.
Et on travaille à la fois avec la main, le magnétisme de la main et la voix pour au-dessus du corps pour nettoyer en fait tous ces mémoires parasites.
D'accord. Pour pouvoir peut-être créer un nouveau monde et se libérer de tout l'ancien.
Ben voilà, pour essayer de voir les choses de manière plus claire, parce qu'en fait, ces mémoires parasites, c'est un peu comme si on avait des voiles autour de nous, où de temps en temps, on utilise l'expression comme des pleures d'oignons. C'est-à-dire que après, quand on travaille, on enlève une première couche, puis après, on va retomber une deuxième couche. Et plus ça va, plus en fait, on a une vision claire et limpide des relations qu'on a avec les gens et de l'environnement qu'on a. Et puis ça nous aide à trouver plus facilement peut-être aussi notre chemin de vie, savoir comment on évolue.
Très bien, merci hein, Eric pour tout ça. Si on veut te contacter, comment fait-on ? Est-ce que y a des infos sur internet pour te trouver ou sinon tu nous les donnes là ?
Pas d'autres infos sur internet, un numéro de téléphone.
Alors vas-y, donne-nous ton numéro pour ceux que ça intéresse.
Pour ceux que ça intéresse, le 06 25 36 35 09. Qui est mon portable, voilà.
Et puis, donc, toi, tu es basé sur Anduze, mais
On est basé sur Anduze, mais on se déplace beaucoup.
Voilà.
Oui. On va travailler sur des maisons. On peut aller à Saint-Étienne, à Lille.
Une idée de tarif, peut-être, aussi. Combien il faut compter pour diagnostiquer un lieu, par exemple ? Ça dépend du lieu, j'imagine, la taille du lieu.
Ça dépend de la taille du lieu, oui. Bien sûr.
Et puis du déplacement, si c'est loin, si c'est pas loin, etc. Voilà. Mais grosso modo, si c'est un lieu qui n'est pas trop loin.
Un lieu pas trop loin, oui.
Basique, une maison, un appartement.
La base, c'est à peu près 55 euros de l'heure. Donc en fait, quand on travaille sur une maison, on passe. Ça dépend. Entre le moment qu'on a l'étude à la maison, plus le travail après sur place, ça peut correspondre à 5, 6 heures. Ça tout dépend de la taille, vraiment.
Okay.
Là, c'est vraiment flexible.
C'est vrai que c'est un investissement qui peut quand même être très, comment dire, stratégique sur un cas d'achat, par exemple, de terrain ou de construction de maison.
Sûr.
Ça vaut le coup de penser à cet investissement-là, quoi.
Tout à fait.
Ouais, ok. D'accord, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on a oublié de dire ? On a fait le tour de la question, selon toi ?
On a fait pas mal de tours de questions.
Ouais. En tout cas, on a bien compris ce que c'était. Merci hein, pour cet exposé, c'était bien, bien clair. Et ça permet de mettre un peu plus de vision sur ce monde de l'invisible.
Voilà.
Ok. Bon, mais nous, ici, à la boutique solidaire, on va pouvoir continuer. Le public va pouvoir te poser des questions. Et puis, on va saluer nos auditrices et auditeurs. Et on les retrouve le mois prochain avec... la thématique du mois prochain, ça sera sur la néo-paysannerie, ces nouveaux paysans, ceux qui y croient, okay, ils ont la foi. Hein. Donc on va les rencontrer le mois prochain. Allez, merci Eric.
Merci d'avoir reçu.
À bientôt.
Au revoir.
ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.